8h20 à Paris, chassé-croisé à l'Elysée après Volodymyr Zelensky hier. C'est au tour de Joe Biden d'être accueilli aujourd'hui par Emmanuel Macron pour une visite d'État. Après les commémorations du débarquement, un déplacement hautement politique et symbolique à quelques mois de la présidentielle, où il brigue un deuxième mandat et dans un contexte international plus qu'inconfortable pour lui. Quels enjeux pour Joe Biden? À quel point la politique étrangère peut-elle lui nuire ou l'aider? Notre invité pour en parler, Alexandra de Hoppe-Scheffer, bonjour.
Bonjour.
Spécialiste des relations transatlantiques et internationales, vous êtes vice-présidente senior du think tank German Marshall Fund of the United States. Merci d'avoir accepté l'invitation d'RFI ce matin. Après un premier discours jeudi, hier c'est à la pointe du hoc que Joe Biden s'est exprimé sur la démocratie. La démocratie commence avec chacun de nous, a dit le président, dont les mots visaient clairement Donald Trump. Je le cite. Qui peut douter que les Rangers de la pointe du Hoc voudraient que l'Amérique se dresse contre l'agression de Poutine en Europe? Qui peut croire qu'ils voudraient que l'Amérique s'isole aujourd'hui? Un discours symbolique à l'endroit même où Ronald Reagan avait marqué les esprits quelques mois avant sa réélection, il y a 40 ans, en 1984. Le président Joe Biden voulait prononcer un discours aussi marquant, aussi déterminant. Est-ce qu'il a réussi?
Je pense qu'il a réussi. Et si on met de côté 2 minutes tout l'aspect cérémonial, moi, ce qui m'a quand même saisi, c'est qu'il était empreint d'un certain réalisme que vous traduisez là, il y a quelques minutes. C'est-à-dire que il y a vraiment 2 phrases que je retiens. Il a dit 1, la démocratie n'est jamais garantie. Et 2, la paix a un coût. Et effectivement, la paix et la démocratie, aujourd'hui, sont menacés sur le continent européen. Et ce sont 2 choses pour lesquelles, en fait, il faut sans cesse travailler. Il faut les cultiver et il faut parfois les défendre.
Mais ça s'adressait aux Américains, plus précisément.
Ça s'adressait aux Américains, effectivement, avec effectivement ce réalisme quant à l'état de la démocratie aujourd'hui. Vous avez cité le spectre de Trump qui ébranle la démocratie américaine depuis maintenant quelques années. Mais il s'adressait aussi aux alliés, c'est-à-dire à nous, avec la notion que les alliances aujourd'hui pour les États-Unis, en tout cas dans sa notion du leadership américain et de la relation transatlantique, comptent énormément. Et que sans les alliés, l'Amérique ne peut pas aujourd'hui répondre au défi d'aujourd'hui.
C'est ce qu'il avait dit notamment jeudi au cimetière américain de Colville. « Je refuse de croire que la grandeur de l'Amérique appartient au passé », disait Joe Biden hier. Commémorer ces 2 derniers jours, l'un des plus grands succès militaires de l'histoire des États-Unis, c'est aussi l'occasion de réaffirmer le leadership américain dont vous parliez au moment où certains acteurs, certaines puissances le contestent ou en doutent.
Bien sûr, c'est une manière, il a fait sa campagne, on se souvient, sur la notion du « America is back », l'Amérique est de retour, mais aussi on voit à quel point l'influence des États-Unis à l'international est diminuée. On le voit bien sûr dans le contexte de la guerre en Gaza. Il n'arrive pas du tout à peser face à son allié israélien Benjamin Netanyahou.
Et il est de plus en plus isolé sur son soutien à Israël.
Absolument. Et il se rend compte aussi, et c'est ça qui est extrêmement intéressant mais risqué pour lui, que la géopolitique, les guerres d'aujourd'hui, guerre en Ukraine, guerre à Gaza, mais également quand même l'escalade des tensions avec la Chine autour de Taïwan, ont un coût politique pour lui. Et sur Gaza, effectivement, c'est l'électorat jeune américain qui se désolidarise de Trump. Et souvenons-nous que ce sont les jeunes en 2020 qui ont permis à Biden de gagner l'élection.
Alors, on va revenir aux enjeux de politique politicienne pour Joe Biden, mais je voudrais qu'on évoque justement la question des alliés, leur perception avec, vous l'avez dit, ces divisions au sujet de Gaza, le soutien à l'Ukraine qui a été remis en question ces derniers mois. Aujourd'hui en France, mais aussi la semaine prochaine au G7, le mois prochain au sommet de l'OTAN. Quels sont les enjeux pour Biden? Quel message peut-il, doit-il envoyer aux alliés?
Je pense qu'il doit passer le message suivant, c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui qu'entre alliés atlantiques, on essaye de trouver des solutions, en tout cas des réponses aux grands défis d'aujourd'hui et de demain. C'est-à-dire sortir, et malheureusement l'Amérique et nous, Européens, on est un peu là-dedans, on est trop dans du court-termisme, on est dans la gestion de crise au quotidien. On n'avait pas absorbé le Covid, que s'ajoute la guerre en Ukraine, que s'ajoute la guerre à Gaza, et puis demain, autre chose. Et ce court-termisme fait qu'aujourd'hui, des 2 côtés de l'Atlantique, on a du mal à se projeter et donc aussi à se coordonner. Et ça se reflète dans la politique de Biden en matière, par exemple, économique ou commerciale. ou par exemple technologique, le fameux IRA, le Inflation Reduction Act, qui se traduit par des subventions massives américaines dans la tech, dans les industries américaines, dans les véhicules électriques.
Qui déclenche la colère des Européens.
Qui déclenche, et à juste titre, puisque en fait, via ces subventions massives, il remet en question le jeu de la concurrence internationale et a fortiori avec nous, Européens. Donc ça, c'est un. Deuxième, c'est qu'aussi, à force d'être dans le court terme, l'Amérique de Biden nous met beaucoup, nous, Européens, devant le fait accompli. Mmh. Si on fait un tout petit peu de rétrospection, Afghanistan, le retrait chaotique est peu coordonné avec nous. AUKUS pour la France, donc cette alliance Grande-Bretagne, US, Australie, ouais, qui quand même nous a beaucoup impacté, qui a impacté aussi le lien de confiance que nous avions avec les États-Unis. Donc il y a quand même une accumulation qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on ait un dialogue franc, direct avec les États-Unis, et que même si on a un décrochage européen aujourd'hui sur tous les aspects dont je viens de parler, économique, technologique et militaire, il faut qu'on, et c'est ce que fait d'ailleurs Macron aujourd'hui, hein, en prenant le lead sur beaucoup de sujets par rapport à l'aide à l'Ukraine, je pense que ça, c'est la bonne posture.
Pour en revenir aux enjeux électoraux à quelques mois de la présidentielle, Biden avait déclaré, vous le disiez plus tôt, le retour de l'Amérique à son arrivée au pouvoir, le retour d'un leadership américain sur une scène internationale qu'il espérait plus stable, on en est loin. Depuis la chute de l'Afghanistan, Joe Biden a été beaucoup critiqué sur sa gestion des affaires étrangères. On peut dire que l'international, c'est son talon d'Achille.
C'est son talon d'Achille et c'était alors paradoxalement, c'était vraiment ce sur quoi il était le plus attendu.
Ouais.
C'est-à-dire l'homme avec l'expérience à l'international, contrairement à son prédécesseur Donald Trump. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, il a été en fait surpris à plusieurs reprises par ces crises. Son « America is back » s'est traduit finalement par beaucoup de prudence. Il est aussi à l'écoute d'une opinion américaine qui, n'oublions pas, après 20 ans de guerre contre le terrorisme et 20 ans d'échecs stratégiques américains en Afghanistan, en Irak, etc., sont plutôt dans une logique de protection, voire de protectionnisme, que de projection.
Retour de l'isolationnisme.
Exactement, exactement. Et donc l'internationalisme dont vous venez de parler ne résonne absolument, absolument plus au sein de la société américaine. Et ça, Trump l'avait extrêmement bien compris. Là, ce qui se passe avec Biden, c'est que les Américains regardent le monde aujourd'hui. Et ils se disent le monde aujourd'hui est beaucoup plus chaotique sous Biden que sous Trump. Est-ce que l'Amérique aujourd'hui est capable de gagner après avoir échoué ces 20 dernières années? Et c'est ça, c'est la notion de victoire, de paix, de sécurité qui sont aujourd'hui remises en question. Et avec une Amérique, oui, qui vacille, qui tatillonne, on le voit à Gaza, on le voit à l'Ukraine. Et c'est pour ça que moi je dis, nous Européens, on a finalement dans ce déséquilibre entre les États-Unis et l'Europe un espace pour nous, pour l'utiliser et pour parfois prendre l'initiative sur des sujets où l'Amérique est plus en retrait et si possible ensuite l'arrimer à ces initiatives. Et c'est ce qui se passe concrètement aujourd'hui avec l'Ukraine.
Et donc peut-être apprendre à se passer des États-Unis ?
Alors on ne peut pas se passer des États-Unis. En tout cas, à court moyen terme, on sait que l'on ne peut pas. Et c'est pour ça que ce soit la France ou les autres pays européens, on sait qu'on a besoin du leadership et des capacités américaines. Mais ça ne doit pas être un obstacle à notre volonté politique aujourd'hui.
Merci.
D'investir dans les capacités européennes.